toujours bien en votre compagnie vendredi matin, s'appétit l'émission entre 6h et 10h du lundi au vendredi. Ça nous fait plaisir de débuter la journée avec vous. J'espère que le plaisir est partagé, en tout cas avec Jean-Paul, on ne boude pas son plaisir.
J'espère bien, Samia, que vous ne boudez pas votre plaisir avec s'appétit.
Ouais, et ta chronique?
Et ma chronique. Ma chronique.
C'est la tienne, c'est ta responsabilité.
Ma chronique. Faites entrer l'artiste et on fait entrer Cédric Moulier. Bonjour Cédric.
Et bonjour. Ouais, merci beaucoup. Bonjour.
Et c'est trop bien parce que cette émission, en plus, cette chronique, à chaque fois, on l'amène en public.
Ah oui, hein.
Bah oui, quand formidable. Même.
Oui, c'est toujours plus chaleureux d'avoir quelques invités dans le studio. Donc Cédric, tu as une actualité, c'est-à-dire la sortie de ton album... De mon âme à la tienne.
Absolument.
Voilà, 9 titres.
Oui.
Et la semaine dernière, lors du premier épisode de tes aventures, tu nous racontais que c'est grâce un peu à tes parents que tu as pu en fait vivre ta vie d'artiste. Ils n'ont pas fait barrière à tes rêves.
Absolument, absolument. Déjà, ils nous ont accompagnés, je dis nous parce que mon frère aussi est musicien professionnel, depuis tout petit. Voilà, avec tout ce que ça représente, parce que des enfants musiciens, c'est du boulot, quoi. C'est les écoles de musique le mercredi, les concerts, les répétitions, les instruments à acheter, voilà. Donc ils nous ont toujours accompagnés sur ça, et ça a été quand même énorme, énorme. Et il y a eu ce passage, effectivement, en fac de musicologie, où ils m'ont dit, c'est intéressant, mais tu dois faire autre chose. Si tu veux faire autre chose, en tout cas, nous, on croit en toi, on fera ce qu'il faut pour t'accompagner au maximum.
Tu t'ennuyais ? Ils sentaient que tu t'ennuyais ?
Il y avait un peu de ça, ouais, exactement. Je pense qu'ils sentaient que je m'ennuyais, que je tournais un peu en rond et que j'étais terne, quoi.
Mm.
Et effectivement...
Ouais.
Effectivement, quelques mois après, il y a eu Cabrel qui est arrivé un peu dans ma vie avec la production du premier album.
À quelle occasion ? Comment ça s'est fait, ça ?
En fait, on jouait beaucoup avec le Manège Grimassant. Ça faisait déjà mon premier groupe, ça faisait au moins 4-5 ans que je tournais avec. Hein. Donc déjà, j'avais commencé, j'étais au lycée et on tournait dans les bars à droite, à gauche. Et on avait quand même, on commençait à avoir un vrai public sur la Genêt, un fervent public.
Ouais.
Et donc, il a eu vent de ça, en fait, parce qu'il y a des gens qui nous... suivaient et qu'ils y en ont parlé, notamment sa fille Aurélie, qui avait à peu près mon âge à cette époque-là et qui adorait le groupe.
C'est l'époque du Manège Grimassant.
Le Manège Grimassant.
Avec
exactement.
Sylvain Reverte.
Sylvain Reverte, ouais.
Et
ouais.
C'est vrai que ça a eu son
ouais.
Beau succès.
Ah, ouais, quand même. Ouais. Parce qu'on a quand même eu ce truc incroyable. Quand on a sorti notre album, on a fait toute une tournée et tout ça. La prod a loué l'Européen à Paris, qui est quand même une très belle salle.
Ouais.
Et on a quand même des gens à Agen qui se sont organisés, mais sans nous, hein. Pour louer un bus, 50 personnes ont loué un bus.
Je connais cette histoire, mais oui.
Pour monter voir le concert, ils ont fait l'aller-retour. Ils sont partis à 9h du mat, ils sont arrivés à 19h, ils ont vu le concert, et après le concert, ils sont remontés dans le bus pour rentrer à Agen.
Ça, non, c'est chouette.
C'est fou quand même, tu vois. Nous, on trouvait ça complètement fou que des gens fassent ça, tu vois.
Moi, ce que je trouve super aussi et fou, c'est qu'un jeune artiste qui quitte Toulouse... La vraie question qui se pose en général les artistes, c'est « je vais monter à Paris pour être en haut de l'affiche ». Et lui, il dit « non, je vais à Agen ».
C'est vrai. Parce que moi, c'est vrai, j'ai toujours été bien ici. Comme on le disait la dernière fois, j'ai vraiment été accompagné par tous les organismes possibles qui est ici. Ils ont toujours été, à un moment donné, des ressources.
Ouais.
Le Conservatoire, le Florida, le Théâtre du c'est Jour, clair. Le Théâtre du Courneau, Astafor, Voix du Sud. Bon, voilà. Et ça s'est fait. Astafor, le premier album du Manège. Je reviens ici. Je me mets en colocation avec mes potes musiciens. Je me recentre sur mes instruments. Je me lève à 7h le matin. Je leur casse la tête parce que c'est des vrais musiciens qui se levaient à midi. Moi, je me levais à 7h. Je faisais mes gammes dans le garage, ils n'en pouvaient plus. Et je recentre bien les choses comme ça, et petit à petit, les choses s'amorcent, et puis ça part comme ça, en fait, ouais.
Et en fait, tu illustres bien la chance qu'ont les artistes Lot et Garonne d'être dans un département, quand même, où tout se fait à taille humaine, et on a cette puissance aussi qui se dégage de Voix du Sud, le Florida aussi, c'est quand même c'est un sacré outil pour les artistes, et vous avez de la chance, en fait, parce qu'aujourd'hui, toi, t'es artiste à part entière et t'en vis, quoi.
Ouais, tout à fait, exactement, et vraiment, grâce à tous ces gens-là,
qui m'ont
aidé à me mettre le pied à l'étrier, parce qu'on le sait, bon, c'est des métiers qui sont qui sont pas balisés vraiment, quoi. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, ouais. Tout à fait.
Et tu deviens backliner sur...
Exactement, ouais. Le Manège Grimassant. Le Manège s'arrête, on continue en duo avec Sylvain. la prod nous suit, on fait un nouvel album produit par Michel Françoise, on fait une tournée, et sur cette tournée-là, on tourne, donc nous on fait les premières parties de Cabrel avec le duo Grimm dans les Zéniths et tout ça, et à ce moment-là je rencontre toutes les équipes, et des suites de ça, je pars en tournée aussi avec Cabrel en tant que backliner. Backliner, c'est-à-dire
alors,
je...
Mais explique un peu ouais, ce que c'est
technicien,
qu'un backliner.
On va dire, c'est un technicien qui va s'occuper de, d'un des musiciens, bon moi j'avais le chanteur,
non.
Donc je m'occupais de Francis, ouais,
donc
de,
il fallait accorder sa guitare, c'est ça ?
Il a 5-6 guitares, donc je m'occupais de ses guitares.
Ça fait quoi la première fois qu'on te dit tu vas avoir cette responsabilité et qu'en plus tu t'occupes de la guitare de Francis
Cabrel ?
Ouais,
c'est assez impressionnant. Alors il y avait déjà bon, la rencontre et tout, nous on s'était pas mal côtoyés avec le studio et tout ça, mais par contre, ouais, d'être au service de ce genre de projet, c'est un autre monde parce que moi je jouais quand même encore surtout dans des bars et des petites salles de concert avec mes groupes. Et là j'arrivais sur des tournées de Zénith avec une équipe technique énorme et tout ça, et que des gens hyper bienveillants. À l'image de Francis, de toute façon, hein, toutes ces équipes, c'est vraiment des gens hyper adorables,
ouais,
qui m'ont hyper bien accompagné, accueilli et tout ça, que ce soit les musiciens, les équipes techniques, le staff, tout le monde. Ça a été un vrai bonheur de découvrir ce monde-là. Et c'est très impressionnant quand même de prendre la gratte, de l'amener comme ça devant 50 000 personnes. J'espère qu'elle est accordée comme il faut. Bon, le soir, il fallait que j'échange les cordes, mettre des piles et nanana. Ben, c'est rien. Hein,
il y avait toute une procédure.
Ah ouais, il y avait tout un protocole que m'avait transmis Michel. Parce qu'en fait, donc, à l'époque aussi, Michel faisait ça pour Francis sur ses tournées d'avant, Michel Françoise. Puis là, il avait d'autres projets et tout. Puis un jour, il m'a dit, écoute, si ça te dit, t'y vas à ma place, quoi. Et moi, c'était une chance pour moi parce que ça me permettait de découvrir ce monde-là. Et donc, il m'a filé tous les tuyaux. Il m'a dit, alors, tu vois, tu vas faire comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Des fois, ça va t'arriver, t'inquiète pas. C'est ça. Ça a été mon mentor, Michel, pour plein de choses. Hein. Ouais, vraiment, c'est lui qui m'a appris le métier du studio aussi. Voilà.
Donc, hyper formateur.
Très, très, très formateur. Une super, super aventure. Ouais.
Et c'est tellement formateur qu'à un moment donné, la question se pose, Paris ou ici ?
Et ouais, bah, exactement, parce que du coup, d'évoluer dans ce milieu-là, d'être proche de Francis, de ses équipes et de toutes ses équipes techniques et tout ça, forcément c'est des gens qui travaillent avec d'autres artistes sur d'autres tournées, dans d'autres projets. Donc à ce moment-là, la question se pose, est-ce que je continue ça ? Est-ce que je deviens musicien vraiment de studio ? Je monte à Paris et puis j'ai le carnet d'adresses et je vais aller faire des séances de violon pour, je sais pas moi, Jean-Louis Aubert ou je sais pas quoi. Et où je fais autre chose. Et en fait, à ce moment-là, déjà moi, il y avait quelque chose qui commençait un petit peu à me titiller et je sentais bien que ces grosses structures-là aussi avaient plein d'avantages d'un point de vue de production, de moyens, etc. Mmh. Mais qui, moi, me coupaient d'une partie de choses dont j'avais besoin, à savoir d'un côté l'autonomie, on va dire, artistique et décisionnelle des choses, et aussi beaucoup le fait de pouvoir être en lien avec les gens et au service de quelque chose qui n'est pas juste un projet artistique qu'on met sur une scène et qui est joli une heure, et puis bon, qui voilà. Donc j'avais besoin d'autre chose.
Mais aussi la question de la liberté.
Aussi, ouais, beaucoup.
Ouais.
Donc, être au service des gens, ça s'est concrétisé comment ?
Eh bien, ça s'est concrétisé de plusieurs manières, on va dire. Il y a peut-être deux grandes manières. La première, c'est que pour rester dans le milieu artistique musical, moi, j'ai fondé mon propre studio, on va dire, mon premier studio. Donc voilà, j'ai mis bout à bout des câbles, des trucs dans le garage chez ma grand-mère. Michel m'a filé des pieds de micro, des micros, vas-y, commence, prends ça, ta. Donc j'ai commencé comme ça. Et en même temps, à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à accueillir divers artistes au studio, soit pour des projets d'albums, mais aussi beaucoup pour des plus petits segments.
Et on dit pas tout, parce que tout ça, tu vas nous le dire dans
d'accord.
La semaine prochaine.
Très bien, mais
tu
bien sûr,
en
ça revient
un
la
petit
semaine
peu
prochaine.
Ah oui, quand même. Reviens. Non, mais ce qui est beau, c'est quand même qu'on est là sur... Tout à l'heure, tu disais, quand t'es entré dans l'équipe à Francis Cabrel, ce que t'as aimé, c'est l'esprit, mm-hmm, et l'entraide, ouais, et la bienveillance, etc. Et quelque part, en fin de compte, ça a fait ton ADN artistique.
Ouais, j'ai
l'impression.
Tout à fait. Je pense qu'on est aussi, effectivement, beaucoup le fruit des rencontres qu'on fait, mmh, et de comment elle nous colore, quoi. Donc moi, ça a joué certainement beaucoup. Et puis si j'ai passé du temps avec ces gens-là, c'est qu'aussi j'avais cette propension à être avec des gens dont l'ADN philosophique et spirituel était quelque chose d'ouvert aux autres et tout ça, quoi. Ouais, je pense.
On retrouve cette dimension spirituelle dans les titres de ton album.
Ouais.
Il y a oui, c'est très intimiste. C'est aussi parfois un peu lyrique,
ouais,
mais c'est très spirituel, oui, et c'est, ouais, très beau. Et on va écouter un titre pour conclure cette deuxième séquence.
Exactement, monsieur.
On va écouter un extrait donc de l'album De mon âme à la tienne. On va écouter L'Encrier par Cédric Moulier.
Sur Radio Bulle, les amis.